LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
J'habitais au Moulin d'Andé, puisque c'est ma mère qui avait créé ce lieu incroyable. Et j'ai retrouvé une lettre où j'écris à ma mère qui est en voyage, parce qu'elle voyageait aussi beaucoup, je suis au Moulin. Et je lui dis, il y a un monsieur qui est arrivé avec une grande chevelure, un écrivain. C'était un monsieur extrêmement gentil et facétieux surtout, qui faisait que des blagues. Et j'ai un souvenir incroyable de lui, qui faisait que des blagues, quoi, sans arrêt.
Eh ben, j'ai vu un diablotin. Il faut que je parle de sa laideur, parce qu'il était, affreusement laid et affreusement charmant. Il y a des diablotins séduisants.
Pérec, qu'est-ce qu'il, vous pensez, l'a attaché à cet endroit ?
Ah, parce qu'il a rattaché, c'est ma mère, ça c'est sûr. Hein. Il a eu une passion pour ma mère incroyable.
C'était au printemps, et c'était le décor de cinéma que ça n'a pas cessé d'être. Hein. Le décor d'un film de François Truffaut.
Comment ?
Le moulin, le ruisseau, les petites maisons, les bobos. Voilà.
Sur les lieux de Georges Perec, une série documentaire de Claire Zalk et Diffie Mariani. Épisode 2, le moulin d'Andé, le lieu de l'amour.
Voici que se présente le prix Renaudot Georges Perec. Georges Perec a 29 ans, il s'agit d'un premier roman. Georges Perec a d'ailleurs réussi à bloquer la circulation sur cette petite place Gaillon, près de l'Opéra.
Et alors je suis finalement arrivé à joindre Georges Perec, il est entouré d'une meute de photographes et de journalistes. Georges Perec, rappelez-nous tout de même l'intrigue, de quoi il s'agit.
Eh bien, c'est l'histoire de deux jeunes gens, un jeune couple des années 1960. Ils ont environ 25 ans et ils se posent le problème de leur liberté, du confort et de l'argent.
Il est arrivé parce que Maurice Pons était finaliste avec lui pour un de ses romans, je ne sais plus lequel.
Christine Lipinska, fille de Suzanne.
Et c'est Georges qui l'a eu. Et Maurice, quand même très généreux, Georges était un peu abasourdi par tout ce qui lui arrivait et tout ça. Et Maurice Pons lui a dit, viens donc au moulin, tu seras à l'abri de toute cette folie. Et il est revenu avec lui.
Père, il n'avait pas de voiture, on n'a jamais eu de voiture, on n'a jamais su conduire. Et un jour, il me dit, tiens, je dois aller dans un endroit sympathique.
Marcel Benabou, historien et ami de Georges Perec.
Et il se trouve que Henri Perret avait une petite voiture rouge, une Fiat 600 rouge. Ça devait être au début de l'année 66. Et donc, on trouve ce lieu étrange. Et on est frappé par la pluie, le bras mort de la Seine, tout ça me paraît un peu étrange, un peu fantomatique.
Quand nous sommes arrivés au Moulin d'Andé, il pleuvait aussi. Un groupe de scénaristes discutait de leur projet. Un acteur répétait une pièce dans le théâtre. Ce lieu de résidence, fondé par Suzanne Lipinska au début des années 1960, accueille des artistes sur la rive droite de la Seine, à mi-chemin entre Paris et Le Havre, pour écrire, jouer de la musique, travailler. Mais malgré ce foisonnement créatif, difficile de ne pas être saisi par la mélancolie du lieu.
Et il a commencé à y aller de plus en plus régulièrement. Et là, il avait un espace. On vous laissait tranquille à part les repas. Chacun avait sa chambre.
Sylvia Richardson, petite cousine et filleule de Georges Perec.
Il n'y avait rien d'autre à faire que être au calme, travailler, se promener et discuter.
Au Moulin, on est un peu hors du monde. Puis au printemps, c'était merveilleux. C'était un lieu où on pouvait se promener, on pouvait faire de la barque. Les relations, et même amoureuses, étaient faciles. C'était un petit paradis.
Petite fille, on venait à Andé voir le moulin et on venait en barque.
Suzanne Lipinska, France Culture, juin 2012.
Et c'était une belle promenade. Il y avait quand même au moins 2-3 kilomètres pour ramer, pour aller d'un moulin à l'autre. Ça s'appelait quand même Moulin de Connelle. Et moi, petite fille, j'en rêvais, parce que j'allais, il y avait une île, alors j'allais me perdre, c'était Robinson Crusoe. Et puis un peu plus grande, eh bien, j'allais m'installer dans les arbres. Il y avait des saules avec des grandes branches fourchues. Et je me souviens que je partais toujours avec un petit coussin, parce que j'avais le sens du confort, et puis quelques biscuits, parce que j'aime pas avoir faim, et avec mes livres, et je passais des après-midi dans les arbres à lire.
Le moulin était animé par Suzanne Lipinska, qui y habitait avec sa famille, et il est tombé amoureux de Suzanne, qu'on appelait Suzon. Il a eu donc une liaison passionnément amoureuse d'elle. Elle était très belle, elle était très attirante, enfin magnétique. Hein.
Elle était très belle, elle faisait plein de choses. Elle était très indépendante, elle était très curieuse de tout. Et puis, elle s'occupait des gens.
Suzanne était maternelle et ouverte à tous. Elle mettait le lien. Lien, c'est pas assez.
Catherine Clément, philosophe.
C'est plus assez. Elle fabriquait du lien, voilà. Elle fabriquait du lien de manière à ce que ça se passe bien. L'incarnation de la bonté. Donc ça, c'est vrai qu'elle était absolument formidable.
Le phénomène peut-être le plus important du XXe siècle... Je crois que je ne suis pas seule à partager cette opinion.
Absolument formidable, la belle Suzon.
L'explosion.
Elle explique sur France Culture en avril 1967 les buts de la nouvelle revue qu'elle dirige, Trois Continents. De pays, revue d'actualité de ce qu'on appelle alors le tiers-monde.
Méprisé, sans droit à la parole. Et en 1955, ces pays se sont réunis à Bandung.
J'aime beaucoup cette archive de la voix de la jeune femme de 39 ans, précisément au moment où Pérec la rencontre.
Quand un pays se transforme, ou des continents se transforment aussi radicalement, il est impossible au XXe siècle que les autres pays et les autres continents ne soient pas affectés.
Alors, à la fin de l'année 67, si je ne me trompe pas dans les dates, il commence à fréquenter le Moulin d'Andée.
Claude Burgelin, biographe et ami de Georges Perec.
Il y est très heureux tout de suite. Ce lieu est animé par Suzon Lipinska, qui en a hérité de sa famille. C'est un lieu très convivial, très beau, très chaleureux. Et il voit là une jeune femme d'une beauté éblouissante, au nom polonais, et avec trois enfants. Et c'est comme le jeune Werther qui tombe amoureux de Charlotte, justement quand il la voit tartiner, faire des tartines de confiture pour ses enfants. Il y a quelque chose qu'il n'a jamais eu, ce maternel-là. Et il sera fou de bonheur quand il croira avoir une vraie place dans l'intimité personnelle et familiale de Suzanne Lipinska. Et en même temps, il est assez vite lucide pour se rendre compte que c'est une illusion.
Il était heureux au Moulin d'Andée quand vous y l'avez...
Oui, il était heureux. C'était comme un conte de fées, d'une certaine manière. Mais en même temps, j'ai quand même perçu qu'il y avait des tensions. Parce que c'était très intellectuel, évidemment. Donc, par exemple, au repas, les gens racontaient des histoires, faisaient des blagues. Mais il y avait un côté... qui est le plus brillant, enfin, qui fait pas la meilleure blague, mais qui attire l'attention de Suzanne. Enfin, il y avait un tout petit peu un côté comme ça que j'ai perçu. Et je voyais, Suzanne, elle était comme une enchanteresse, parce qu'elle avait un côté extrêmement attirant, et en même temps, elle aimait être admirée de tout un cercle d'intellectuels et de créateurs. Et elle jouait un peu de ça, et je pense que ça mettait un peu Georges mal à l'aise quand il se demandait, en fait, s'il arriverait à toujours être le favori. Et il n'est pas arrivé à être toujours le favori, et ça l'a rendu très malheureux.
Je ne pense pas qu'on pouvait parler de couple à l'époque. C'était plus C'était un véritable amour, ça c'est sûr.
Stanislas Lipinski.
Ma grand-mère était très discrète là-dessus, mais on a retrouvé quand même des correspondances entre Suzon et Georges. Et il y avait une vraie passion. C'était un amour incandescent. Donc, bon, Georges était toujours marié aussi à l'époque, avec Paulette. Et Suzon, elle, avait une vie, on va dire, pas très rangée, assez folklorique ici au Moulin. C'était vraiment une communauté.
Et c'est vrai qu'il travaillait dans la chambre qu'on appelle Jeanne d'Arc, qui est juste au-dessus.
Suzanne Lipinska, Le Bon Plaisir, juin 1990.
Je sais que quand il descendait l'escalier, il n'y avait pas de tapis à l'époque. Exprès, il faisait beaucoup de bruit. Et on disait, tiens, voilà Georges. Alors, il tapait les pieds de ses marches. Et puis quand il remontait dans sa chambre, alors là, c'était la... il tapait sur sa vieille Remington. C'était... on entendait le clic-clac de la machine à écrire de Georges. On a des souvenirs sonores comme ça qui sont encore dans la tête et dans l'oreille.
Moi, j'ai eu des soirées absolument délicieuses, absolument exquises.
Marcel Benabou, Nuit magnétique, décembre 1993.
Georges chantant un général à vendre, la chanson de Francis Blanche. De beau matin, je me suis levé, c'était dimanche. À la carriole, j'ai attelé la jument blanche pour m'en aller au marché dans le chef-lieu du comté. Paraît qu'il y avait des généraux à vendre. Georges adorait cette chanson et chaque fois qu'il y avait une espèce de concours, il chantait ça et il connaissait toutes les strophes, tous les couplets. Et il chantait d'un bout à l'autre dans un silence religieux.
Et donc ça se passe à la bonne franquette, entre guillemets bonne franquette s'il vous plaît, estampillé bonne franquette, donc petit déjeuner en commun, repas en commun. Là, il y avait un plus qui m'a été imposé par Georges Perec, et qui est, tu nous prépares un borch. On était une dizaine de personnes. Hein. Et hop, je me suis retrouvé avec des choux à éplucher, enfin bon, des betteraves à éplucher, enfin tout ce qu'il fallait, et il a fallu que je fasse le borch pour tout le monde. Je le trouvais gonflé, déjà, hein, et je l'ai trouvé bien plus gonflé encore après.
Il s'est installé au Moulin très très vite, et moi j'étais un peu à part, parce qu'avec mon frère et ma sœur, on était quand même jeunes, et on était souvent à la table à côté, à la table des enfants, mais on les voyait, ils fumaient incroyablement, enfin comme un fou quoi, et il était toujours en train de raconter des histoires, des blagues, de faire des facétieux quoi, voilà. C'est, par exemple, il arbitrait il y avait un grand tennis à l'époque au Moulin, et il arbitrait les matchs en faisant que des jeux de mots. Alors, quand c'était 0,40, alors il était sur sa chaise, il jouait pas au tennis, il était sur sa chaise, et il disait, justicier qui ne travaille plus. 0, K, une rente. 0,40. Évidemment, les jeux après étaient un peu déconcentrés, mais sans arrêt, il faisait des jeux de mots sur, comme ça, mais sans réfléchir, quoi. C'est ça qui était extraordinaire, parce que il les préparait pas, quoi, en fait. Je le revois sur sa chaise d'arbitre, tout le monde s'arrêtait, se demandait qu'est-ce que ça voulait dire. Voilà.
C'était dans le style phalanstère ou communauté. Hein. Et Georges, visiblement, il y était pour un petit bout de temps et il n'est pas d'arrivée. Il était une sorte de permanent. Mais il y avait comme ça un roulement de gens. C'était ce type de lieu qui accueillait. Maintenant, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était assez rare.
Il y a sans doute quelque chose qui a dû être très fort, c'est que le Moulin d'Andé...
Isée Bernateau, psychanalyste.
C'est un lieu de résidence. Donc c'est un lieu de passage. Donc d'une certaine façon, c'est une maison, mais c'est à la fois la maison de cette femme et en même temps, c'est un lieu où on ne fait que passer. Donc ça, sans doute que ça a été pour Perec un mois. J'imagine que ça lui a été sans doute plus facile de s'inscrire dans ce lieu-là que s'il était arrivé dans une maison de famille depuis 10 générations, voilà, il a beau dire que un de ses rêves, c'est de s'enraciner, d'être Cévenol ou Poitevin, je pense qu'il y croyait pas, que ça pouvait pas lui convenir.
Je n'aimerais pas vivre en Amérique, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre à la Belle Étoile, mais parfois si. J'aimerais bien vivre dans le 5e, mais parfois non. Je n'aimerais pas vivre dans un donjon, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre d'expédient, mais parfois si. J'aime bien vivre en France, mais parfois non. J'aimerais bien vivre dans le Grand Nord, mais pas trop longtemps. Je n'aimerais pas vivre dans un hameau, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre à Issoudun, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre sur une jonque, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre dans un xar, mais parfois si. J'aurais bien aimé aller sur la Lune, mais c'est un peu tard.
L'image qui me vient à chaque fois en lisant ces chapitres, c'est la vision du cosmonaute qui est perdu dans l'espace dans 2001. C'est-à-dire, ça existe, mais c'est pas relié, ça prend pas sens. Je pense qu'il y a toute une partie de l'œuvre, toute la partie ludique ou lipienne, qui renvoie justement à ce que nous, on appellerait, dans notre jargon, une mentalisation, quelque chose d'une espèce d'hyperactivité intellectuelle qui tente, en fait, de pallier un déficit d'existence. C'est pour ça que les mots ancré, existé, habité, Pérec, il les cherche comme ça. Il est à la recherche.
Je n'aimerais pas vivre dans une tour, mais parfois si. Je n'aimerais pas vivre avec Ursula Andress, mais parfois si. J'aimerais vivre vieux, mais parfois non. Je n'aimerais pas vivre dans un wigwam, mais parfois si. J'aimerais bien vivre à Xanadu, mais même pas pour toujours. Je n'aimerais pas vivre dans Lyon, mais parfois si. Je n'aimerais pas que nous vivions tous à Zanzibar, mais parfois si.
Pourquoi vous dites que Pérec a un problème avec le lieu ? Quel problème il a ?
Précisément, le problème qu'il a, c'est qu'il n'arrive pas à habiter les lieux. C'est qu'en fait, il traverse des lieux, il connaît des lieux, il est même un spécialiste des lieux, mais justement, il a une espèce de quête du lieu et des lieux parce qu'il essaye de les habiter. Il essaye d'arriver à les habiter. Et le cas de Pérec, il est génial, presque pour le psychanalyste, parce que ça montre à quel point c'est important psychiquement de pouvoir habiter un lieu. Tout ça, ça manque de chair, ça manque d'incarnation, en fait. Il y a quelque chose qui s'est désincarné. Comment faire que ce soit de nouveau vivant ? C'est d'ailleurs un mot que son analyste Pontalis emploie. Il dit « la disparition de la mère » et des deux parents a entraîné dans la mort l'enfant vivant. Je crois que c'est très juste.
Est-ce qu'on peut visiter la maison ?
Oui, bien sûr.
Suzanne Lipinska, Le Bon Plaisir, juin 1990.
Enfin, cette partie-là est exactement telle qu'elle était autrefois. On n'a pas touché à ce qui était, on a agrandi, disons. Alors, il y avait toujours cette cheminée qu'on aimait bien, une cheminée en petites briques et autour de laquelle il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions, de soirées très, très décontractées et très sympathiques. Alors là, c'est ce que nous appelons la salle de la meule. C'est ce qui était autrefois la machinerie du moulin. Alors, le moulin d'Andée est le dernier moulin de ce type qu'on appelle pendant, c'est-à-dire que la roue pend dans l'eau et le moulin est à cheval entre une île et la rive. Et c'est le dernier moulin qui ait conservé toute sa machinerie intérieure. Mais cette pièce-là, elle n'a pas été touchée du tout. Bon, j'ai un certain respect pour les choses historiques, si vous voulez, mais j'aime beaucoup qu'elles servent. J'aime pas le côté musée des choses et ça risque d'être un peu abîmé, mais enfin je dis tant pis, il faut que les choses servent. J'ai un côté un peu terre à terre pour ça.
François Truffaut a été le premier résident du Moulin, puisqu'il est venu ici écrire son premier court-métrage. Et puis, évidemment, il est revenu quelques années plus tard pour tourner le fameux Jules et Jim. Et en fait, il y a pas mal de scènes, notamment surtout sur la fin du tournage, où justement, entre Henri Serre et Jeanne Moreau, ils arrivent par l'île du Moulin. Ils montent par l'escalier et ils arrivent ici dans cette pièce de la Meule, qui est en fait une chambre dans le film. Et cette fameuse photo où on voit Jeanne Moreau allongée sur ce canapé, qui n'est pas un canapé, qui est plus une adaptation de lieu de oisiveté, j'ai envie de dire. Donc Jeanne Moreau s'est allongée là. Et évidemment, beaucoup de gens qui viennent visiter la salle de la Meule reprennent la position de Jeanne Moreau, qui est un peu spécifique, pour se prendre également en photo.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale.
Ce qu'il est... aimé, c'est l'atmosphère très chaude, chaleureuse, amicale qu'il a connue au Moulin, dont il est devenu vite le bout en train.
Claude Burgelin.
En particulier au moment de l'écriture de La Disparition, qui a été plus ou moins un ouvrage collectif. Enfin, tout le monde s'est mis à faire du sans eux avec allégresse. Par exemple, Maurice Ponce, qui était l'hôte permanent du Moulin, il se met à écrire Rosa ou le bonheur des hommes sans eux. C'était un nouveau jeu. Et ça, j'ai souvent le sentiment qu'il était comme un enfant qui bâtit sa relation avec l'autre en disant « Viens jouer avec moi, je vais te montrer les jeux auxquels je joue. » Et il avait une façon tellement souriante de faire partager cela que tout le monde était conquis.
Et on joue beaucoup au Moulin d'Andé. On joue au go, au scrabble, au tennis, on joue de la musique, on chante. Lieu de l'amour, le Moulin. Lieu de l'amitié aussi, d'autant que Georges Perec en fait le terrain d'un tout nouveau jeu. Une prouesse, battre le record du monde du lipogramme.
C'est le fait d'écrire un texte en se passant d'une ou de plusieurs lettres de l'alphabet.
Marcel Benabou.
Lipo en grec, je mets de côté, je laisse. Gramma en grec, une lettre. Lipogramme donc, j'écris sans utiliser une lettre de l'alphabet. Bien entendu, on l'avait choisi pour battre le record du monde du lipogramme, la lettre la plus fréquente de la langue française, qui était le E, et on décide d'écrire quelque chose en n'utilisant pas la lettre E.
Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'idée. J'avais simplement un projet, une ambition, qui était d'écrire sans E. J'y arrivais pas. Un jour, j'ai produit un texte, qui est le texte qui ouvre le livre, qui est cette espèce de description apocalyptique. J'ai en quelque sorte prouvé la possibilité que l'on pouvait écrire sans E. Et j'ai d'abord décidé dans mon projet que ce texte serait la fin du livre. Serait cette espèce d'apocalypse vers laquelle j'allais me diriger. Et puis au fur et à mesure que j'écrivais, les idées venaient, les images venaient. Les mots, à force de s'agglomérer les uns aux autres, faisaient des phrases. Ces phrases s'organisaient autour d'un thème central, unique, qui était, il y a quelque chose d'interdit, il y a quelque chose de pourri, il y a quelque chose qui pèse sur les personnages, qui les tue, qui les contraint à vivre. Enfin, il y a quelque chose qui pèse sur l'écriture, il y a une espèce de contrainte qui aboutit à une liberté totale.
Il marchait dans un haut corridor. Il y avait au mur un rayon d'acajou qui supportait 26 in-folios. Ou plutôt, il aurait dû y avoir 26 in-folios, mais il manquait toujours l'in-folio qui offrait, qui aurait dû offrir, sur son dos l'inscription 5. Pourtant, tout avait l'air normal. Il n'y avait pas d'indication qui signalât la disparition d'un in-folio, un carton, a ghost, ainsi qu'on dit à la National Library. Il paraissait n'y avoir aucun blanc, aucun trou vacant. Il voulait saisir un in-folio, l'ouvrir. Lisant, aurait-il surpris par raccroc, par hasard, un fait plus probant, l'indication qui lui manquait ? Mais il n'y arrivait pas. Sa main passait trop loin du rayon. Il n'arrivait pas plus à savoir à quoi avait trait la publication. Tantôt, il croyait y voir un colossal ABC, tantôt Coran, Talmud ou Torah, l'opus magistral, l'angoissant bilan d'un savoir tabou. Il y avait un manquant. Il y avait un oubli, un blanc, un trou qu'aucun n'avait vu, n'avait su, n'avait pu, n'avait voulu voir. On avait disparu, ça avait disparu.
Je voudrais savoir si pour vous, il est important que le lecteur entre dans ce jeu. Je veux dire, voulez-vous qu'il sache quoi exactement manque, en l'occurrence cette lettre, E ou pas ?
Je ne voudrais pas qu'il le sache, parce que s'il le sait trop vite, il va lire ce livre comme un pur exercice. Et je pense qu'il y a trois niveaux. Le premier, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui lirait sans savoir et sans jamais deviner comment ce livre a été écrit. Alors à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas le centième des allusions qu'il y a. Enfin, ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tout le temps des bourdons dans mon livre ? Parce qu'en typographie, un bourdon, c'est une lettre qui a sauté. Il ne comprendra pas... il ne comprendra presque rien. Ensuite, il y a celui qui sait, qui a compris qu'il n'y a pas de E. À ce moment-là, il y aura une lecture que je pourrais appeler sportive. C'est-à-dire qu'on va se mettre à chasser les E, à voir s'ils existent, si j'en ai quand même mis, comment j'ai fait pour les enlever, comment j'ai fait pour parler sans E, comment j'ai fait pour dire migraine, comment j'ai fait pour dire fortune, comment j'ai fait pour dire demander, par exemple. Et on va à ce moment-là s'exclamer, ah là là, c'est très drôle d'avoir traduit mis sur son 31 par mis sur son 28 plus 3. Moi, je trouve ça très drôle, effectivement. Et ensuite, il y a une troisième lecture qui est finalement celle à laquelle je voudrais que le plus de lecteurs aboutissent, qui est de comprendre que c'est parce que j'ai enlevé la lettre E que j'ai obtenu ce résultat. Que rien, finalement, dans ce livre n'est dû au hasard. Que une fois donné ce principe élémentaire, le livre est entièrement né de la contrainte qui le régissait au départ.
Et ce qui est extraordinaire, et ça je m'en souviens très bien, au Moulin, quand il l'écrivait, il demandait aux amis d'écrire des textes sans la lettre E. Donc Maurice Pons a écrit un texte sans la lettre E, je crois qu'il y a Jean Lacouture aussi qui a écrit. Et donc dans le coffret du manuscrit qu'il a offert à ma mère, il y a des textes d'écrivains qui il en faisait un jeu. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait habité là une prof de français qui était prof au lycée de Louviers. Et elle faisait faire à ses élèves des textes sans la lettre E. Et elle les donnait à Georges. Donc dans le coffret, il y a des élèves, et puis Maurice Pons, Jean Lacouture, et puis d'autres dont je ne me souviens plus.
L'un des soirs, il propose un jeu, et il me propose à moi, seul, et qui est « Tu écris 10 pages sur les philosophes sans utiliser la lettre E ».
Catherine Clément.
J'ai dit « Pourquoi tu veux faire ça, c'est un jeu ?» Il me dit « Oui, c'est un jeu, c'est marrant ». Je dis très bien, bon, si tu veux. Vraiment, hein. Je l'ai fait, voilà, c'était pas si difficile que ça. Heureusement, les philosophes, ils sont riches en Kant.
Qui c'est qu'il y a d'autres alors, Kant ?
Ah, il y a du monde, Spinoza, Platon.
Et donc, vous rendez ce texte sur les philosophes ?
Voilà, bon, point final. Du moins, c'est ce que je croyais. Et un temps X après, je ne sais pas combien de temps, je reçois un exemplaire numéroté de la disparition. Et je lis la disparition, et je découvre mes pages inséré, tel quel, sans aucun changement. Et je me dis quand même qu'il est extrêmement culotté, ce jeune homme, hein, mais extrêmement culotté. Alors, je ne l'ai pas bien pris. L'exemplaire était numéroté, donc je pense que je ne suis pas la seule. J'imagine qu'il a demandé à d'autres de jouer comme ça, hein, un petit jeu sur le coin de la table. Je ne sais pas combien on est, mais il y a une hypothèse que je n'exclus pas, c'est qu'il n'ait rien écrit, du tout. C'est assez dans son style, hein. Supposez qu'on soit 10 ou 15 et avoir fait chacun 10 pages sans se servir de la lettre E, il écrit le titre et puis voilà, c'est tout.
Cela a été un effort considérable. J'écrivais en moyenne 6 lignes par heure. Je travaillais 8 heures par jour, ce qui fait 48 lignes par jour. C'était surtout très difficile parce que j'ai voulu une histoire cohérente. Il ne s'agit évidemment pas d'écrire au hasard des phrases isolées dont toutes sont dépourvues de « e » ou de raconter une histoire sans intérêt.
Pour Claude Burgelin, en abattant avec ce jeu barrières académiques et frontières linguistiques, Pérec, le fils d'exilé, s'inscrit obliquement dans ce paysage, dans cette lignée d'écrivains qui ont redonné aux Français mobilité, oxygène et ce qu'il faut d'anarchie salvatrice pour lui ouvrir des espèces d'espace imprévus.
Le sens de cette disparition du « e » pour un lecteur d'aujourd'hui, il est évident que arracher la voyelle fondatrice d'une langue, c'est aussi fou que d'arracher une civilisation fondatrice de la nôtre. Et le coup de génie de Pérec, c'est de prendre à revers cette histoire, c'est-à-dire au lieu d'en faire une tragédie, en faire une espèce de comédie burlesque. C'est une façon de déplacer les propos sur la Shoah de façon très passionnante.
Et il dédie aussi ce texte.
C'est à E, E-E-U-X, E peut-être Esther ou Ella, sa tante et sa cousine, E les disparus, on ne sait pas. Mais il le dédie à une lettre, effectivement. Une lettre qui a le pouvoir de sauver ou de condamner. Le E, en plus, c'est le E muet de la langue française. Et ça amène à une vraie réflexion sur la place du E muet dans cette langue. Que, à l'inverse, par exemple, de l'espagnol ou d'l'italien, où on prononce toutes les lettres, il n'y a pas de place pour le silence, tandis que l'économie de la littérature et de la poésie française est fondée sur l'existence du E muet. D'une certaine façon, c'est quelque chose que, par exemple, la Pérec m'a fait comprendre.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que la littérature chez Pérec se fait sur le silence ?
Oui. Il y a une place donnée au silence. On évoquait ses poèmes coupés. Il y a toujours place pour une cassure. Ça aussi, c'est quelque chose, j'ai mis encore 20 ans à m'apercevoir que tous les textes de Pérec étaient cassés en deux. Au centre de son entreprise biographique, W ou le souvenir d'enfance, il y a ces fameux trois points de suspension entre deux parenthèses qui signifient quelque chose qu'on ne peut pas dire, qu'on ne sait pas dire, qu'on ne veut pas dire. Le silence.
Est-ce qu'on a le droit de la voir, cette chambre ?
Bon, je vais essayer de trouver la clé. Ouais. Dans cette petite pièce, avec cette vue traversante, en amont et en aval de la Seine. La chambre a été un peu réaménagée, mais à l'époque, Pérec avait son petit bureau face à la fenêtre, plein sud. Et donc c'est là qu'il a écrit notamment une partie de la disparition. Là, de ce côté-là, on a une petite salle de bain. Et elle-même donne de l'autre côté de la Seine. Là, on est plein nord.
Ah oui, on voit la Seine des deux côtés. C'est comme si on était suspendu au-dessus de la Seine.
Voilà, par là-bas, vous allez à Rouen. Et là, vous allez à Paris.
Anton Voile n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son jazz marquait minuit 20. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut. Mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo. Il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son pouls battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, scruta la nuit. Il faisait doux. Un bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon, plus lourd qu'un glas, plus sourd qu'un tocsin, plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna trois coups. Du canal Saint-Martin, Un clapotis plaintif signalait un chaland qui passait.
Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux m'empêcher, dans cet extrait de la disparition, de lire, d'entendre les sons du moulin, de cette petite chambre perchée, l'eau qui coule du lavabo dans la microscopique salle de bain attenante. Quand il parle du clapotis plaintif du canal Saint-Martin, cela évoque pour moi la Seine qui coule juste là, entre Rouen et Paris. Et ce bruit indistinct qui monte du faubourg. Je me demande s'il ne désigne pas les clameurs des manifestants de mai 68, entendus au loin, du moulin d'Andé ou à la radio.
Il mit la radio. Un air afro-cubain fut suivi d'un Boston, puis un tango, puis un foxtrot, puis un cotillon mis au goût du jour. Dutronc chanta du Lanzmann, Barbara un madrigal d'Aragon, Stitch Randall un air d'Aïda. Il dut s'assoupir un instant car il sursauta soudain. La radio annonçait « Voici nos informations ». Il n'y avait aucun fait important. À Valparaiso, l'inauguration d'un pont avait fait 25 morts. À Zurich, Norodom Sihanouk faisait savoir qu'il n'irait pas à Washington. À Matignon, Pompidou proposait aux syndicats l'organisation d'un statu quo social, mais faisait chou blanc. Au Biafra, conflit raciaux. À Conakry, on parlait d'un putsch. Un typhon s'abattait sur Nagasaki, tandis qu'un ouragan au joli surnom d'Amanda s'annonçait sur Tristan da Cunha, dont on rapatriait la population par avion cargo. À Roland-Garros, pour finir, dans un match comptant pour la Davis Cup, Santana avait battu Darmon 6-3, 1-6, 3-6, 18, 8-6.
Au moulin d'Andé, pendant que lieu mai 68, auquel il ne participe d'aucune façon, il écrit la disparition.
Il m'a invité deux fois, ce qui était vraiment en 68. J'ai passé quelques jours. En 68, tout allait bien encore entre eux, ça c'était clair.
Sylvia Richardson.
En 68, je militais dans les lycées et tout. J'avais besoin un peu de souffler aussi, donc ça m'a fait une petite pause. J'ai essayé d'en parler avec Georges, qui lui était quand même avait aussi ses distances, qui essayait d'écouter, de me donner un peu des conseils, de pas vraiment des conseils, d'écouter, mais...
Lui, il en pensait quoi ?
Lui, il a pris du recul. Lui, il était très, très à gauche, c'est sûr. Mais il n'a jamais voulu vraiment avoir d'action politique. Ce qu'il m'a dit, c'est si tu fais quelque chose, il faut vraiment le faire à fond. Et c'est ce qui est important, c'est en fait l'effort que tu mets d'en faire quelque chose bien. C'était ça son conseil. Alors choisis ce que tu veux choisir, des études ou la politique, mais si tu le fais, il faut vraiment s'engager à fond. Et donc lui, il était engagé à fond dans l'écriture. Mais quand même, ce conseil de « il faut faire les choses à fond », c'était un très bon conseil. Et c'était un peu son motto de vie. Lui, il était à fond dans son projet d'écriture et c'était un besoin vital. Il pouvait pas faire autrement, en fait.
Il ne pouvait pas faire autrement. Est-ce qu'il passe alors à côté des événements, de l'événement ? Cela soulève une question qui m'intéresse vraiment en tant qu'historienne. Quand sait-on qu'on vit un moment d'histoire ? Quand reconnaît-on un moment historique ? Et comment y prendre part ? Je me souviens de ce collègue, voulant maintenir à tout prix un séminaire d'histoire l'après-midi de la fusillade de Charlie Hebdo, en janvier 2015, alors qu'une manif spontanée était organisée place de la République. Avait-il raison ou tort ? Est-ce que cela sert de faire de l'histoire lorsqu'on la traverse ? En ce début 2024, alors que la guerre, les guerres et l'extrême droite sont à nos portes, je suis souvent assaillie par le doute. Comment travailler ? Comment se positionner au plus juste ? Ce texte de Pérec, publié en 1973 dans la revue Cause commune, propose des pistes. Et dans ma pratique d'historienne du social, il figure comme une sorte de motto.
Dans notre précipitation à mesurer l'historique, le significatif, le révélateur, Ne laissons pas de côté l'essentiel, le véritablement intolérable, le vraiment inadmissible, le scandale. Ce n'est pas le grisou, c'est le travail dans les mines. Les malaises sociaux ne sont pas préoccupants en période de grève. Ils sont intolérables 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêt, les tunnels qui s'effondrent, Publicis qui brûle et Aranda qui parle, horrible, terrible, monstrueux, scandaleux. Mais où est le scandale, le vrai scandale? Le journal nous a-t-il dit autre chose que « Soyez rassurés, vous voyez bien que la vie existe, avec ses hauts et ses bas, vous voyez bien qu'il se passe des choses. » Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour. Le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte ? Comment l'interroger ? Comment le décrire ?
Une madame a-t-elle un citron à pain, un grand rayon de soleil, une lame de fond.
Il y a des personnages qui ont marqué la vie du moulin, Georges Perec surtout, si bien que maintenant on dit les années Perec. C'est vrai qu'il avait un esprit, qu'il avait une forme d'humour qui n'était vraiment qu'à lui. Il a écrit entièrement La Disparition ici. Et il m'avait laissé le manuscrit que j'ai et que des chercheurs viennent consulter régulièrement des quatre coins du monde et que je conserve évidemment précieusement. C'est tout ça, c'est quand même, ce sont des souvenirs très, très, très émouvants.
C'est le manuscrit d'un exploit. Enfin, la disparition est un texte.
Jean-Luc Joly, président de l'association Georges Perec.
Ça n'est pas qu'un exploit, évidemment, mais assez extraordinaire. Enfin, il n'en existe pas deux comme celui-là. Et évidemment, avoir l'impression d'entrer dans la matérialité même de l'écriture tout à fait exceptionnelle de ce texte relève quelque part probablement de l'adoration. On peut avoir qu'un rapport assez fétichiste à ce manuscrit.
Mais Suzanne, vous dites qu'elle n'en avait pas.
Non. Suzanne, Suzanne était un peu détachée des choses matérielles et en même temps quelqu'un de très, enfin qui savait gérer son affaire, mais en tout cas dans un esprit un peu pré et post 68 art quoi. Suzanne était un petit peu au-dessus de ces questions matérielles. Bon, elle montrait le manuscrit de la disparition, enfin, volontiers. On poussait les restes du déjeuner ou du petit déjeuner de la table et voilà, on étalait les feuilles à côté des pots de confiture. C'était presque ça, quoi, au Moulin Tendé.
Est-ce que vous diriez que pour Perec, le Moulin Tendé, c'est le lieu de l'amour ?
Ben, c'est le lieu de l'amour et du désamour. Hein. C'est, quand je lis les lettres, il les écrit du moulin. Il y a des lettres où il dit « je t'entends en bas », parce que ma mère avait son bureau, sa chambre en dessous, « je t'entends », j'ai bien envie de venir te voir, mais je sais que je vais te déranger ».
Thank you.
aventure de Georges avec Suzanne, elle était pour lui quelque chose d'un peu inespéré. Parce que Suzanne était une très belle femme. Georges avait eu jusque-là des aventures féminines plus ou moins réussies. C'est difficile de parler de tout ça. Suzanne était la maîtresse des lieux. Elle avait beaucoup d'aisance. Elle était fille de très bonne famille. Enfin bon, vous voyez, elle était la séduction même. Et donc, Georges se prend d'amour véritable et ne comprend pas que pour Suzon, c'était pas l'aventure de sa vie, comme ça l'était pour Georges.
Au Moulin, elle voulait pas s'afficher avec quelqu'un, quoi. Elle était la maîtresse de maison, quoi. Donc, est-ce que c'était pour pas avoir des relations de favoritisme? Elle aimait tout le monde, en fait. Elle voulait pas avoir de contraintes de... Par exemple, moi, je savais pas qu'ils étaient ensemble, quoi. Je veux dire, elle était dans son moulin, qui a été toute sa vie, quand même, au milieu de plein de gens, et elle voulait pas montrer qu'elle était avec Georges à cette époque-là, quoi. C'était une femme, d'ailleurs, dans certaines lettres, il lui dit, bon, tu voulais être libre, je l'ai accepté, mais voilà, ça l'empêchait pas, peut-être, d'aller voir ailleurs, mais je dirais que c'était une femme libre.
Il est resté très attaché à Suzanne, jusqu'à la fin de ses jours. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça a été vraiment, pour lui, un moment important dans sa vie, en tout cas dans sa vie affective. Et il a beaucoup souffert.
C'est au moment de sa rupture avec Suzanne que Pérec lance son projet Lieu. Et parmi les 12 lieux qu'il choisit à Paris pour ses exercices littéraires de description in situ et de souvenirs, on trouve l'île Saint-Louis où Suzon a un appartement. Il compose cet exercice de souvenirs de l'île Saint-Louis au Moulin d'Andé en octobre 1970.
Vendredi 2 octobre 1970. Île Saint-Louis. Souvenir, septembre. Moulin d'Andé, 17h. Je dois évidemment noter que le choix de l'île Saint-Louis parmi ces 12 lieux fut déterminé, de même que la conception générale du livre, par ma rupture avec S, en janvier 1969. C'était à la fois trouver quelque chose à faire et m'enraciner à Paris. Cet enracinement était évidemment hypocrite, puisque la règle n'exige que je sois à Paris qu'une seule fois par mois. Elle voulait dire « Vis à Paris, ne va plus au Moulin ». Elle voulait dire aussi « Ne pars pas à l'étranger », ce qui aurait été, à supposer que j'ai réellement voulu quitter S, la seule chose à faire. Quant au choix de l'île Saint-Louis, il s'imposait peut-être, mais il sous-entendait aussi, à une époque où je croyais, sincèrement, que je ne la reverrais jamais, en passant une fois par an dans l'île, peut-être la rencontrerai-je. Dans un an, dans 5 ans. Du temps aura passé, nous échangerons quelques mots. Nous irons boire un café dans un café. Nous aurons oublié nos griefs, compris que nous nous aimions, etc., etc. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Sauf que je ne me suis pas servi, pas eu le temps, du prétexte des lieux. De toute façon, évoquer chaque année mes souvenirs sur l'île. Ressasser, ne pas oublier. Je ne veux pas oublier. Peut-être est-ce le noyau de tout ce livre. Garder intact, répéter chaque année les mêmes souvenirs, évoquer les mêmes visages, les mêmes minuscules événements. Rassembler tout dans une mémoire souveraine, démentielle.
Je l'ai vu après sa séparation et ça allait très 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 mal, quoi. Franchement, ça allait très très mal, quoi. En fait, il me téléphonait. J'ai un souvenir incroyable. Je vivais avec un réalisateur à l'époque et à 2h20, le téléphone sonnait souvent. En fait, c'était Georges. Et il me disait, est-ce que je peux passer chez vous, prendre un dernier verre? Bon, on disait oui une fois sur deux, mais bon, c'était 2h20. Je sais pas pourquoi, mais... Et en fait, j'ai compris qu'il allait dîner avec des amis. Il prenait d'un dernier verre au Harris Bar, souvent. Et puis, vers 2h du matin, tout le monde rentrait chez soi, quoi. Et lui était dans la rue et était très, très mal, hein.
Et donc, il voulait me voir pour que je reparle de ma mère, quoi, en fait.
Sans doute que pour Pérec, le groupe, l'Oulipo, les copains, dont on sait quand même l'importance que ça a eu pour lui, les vraies amitiés, quoi, profondes, durables, sincères, je pense que c'était vital. Je pense que c'était vital parce que justement, il fallait retrouver quelque chose qui avait été détruit, quoi. C'est des déplacements, quelque chose qui s'est déplacé. Et puis faire œuvre commune avec eux autour de la disparition, ça, je sais pas comment on pourrait le... Il y a une chose que vous m'avez dite un jour, c'est que une des choses qui était singulière dans l'expérience des survivants des camps d'extermination, c'est que c'est une histoire collective. Alors, est-ce que c'est ça aussi? Est-ce que là, il y avait des... À défaut d'avoir des parents, puisqu'ils ont été tués, exterminés, il reste des frères, il reste des frères et sœurs. Des gens avec qui, quand même, on peut partager quelque chose. Même si c'est pas tous leur histoire, mais quand même.
Le lien amical a joué pour lui un rôle essentiel. Sa vie amoureuse n'a pas été très successful. Paulette a été plus une sœur qu'une épouse, une sœur très dévouée, très attentive, mais enfin, il n'a pas trouvé auprès d'elle la chaleur et la charnelité qu'il aurait souhaité. Susan Lipinska, non, c'était une voilà, erreur sur la personne. C'est une image qu'il a aimée, mais ce n'était qu'une image. Et les rapports avec sa troisième et dernière compagne, Catherine Binet, ont été d'une singulière complexité. Alors que les amis, c'était beaucoup plus simple. Il avait d'ailleurs une très étonnante pratique de l'amitié. Il était extraordinairement chaleureux, rieur, mais s'occupait pas de vos affaires. Sur ma vie sentimentale ou professionnelle, il m'a jamais posé de questions. Et ce qui est assez étonnant, c'est de faire vivre une amitié de façon aussi vivante, alors qu'elle a des bases aussi indécises.
Alors comment faisait-il ?
Ben, il parlait de ses projets et il vous emmenait jouer avec lui. Et si on faisait un bouquin où le principe directeur serait celui-ci ou celui-là ? Et on entrait dans le jeu. Beaucoup de jeux de mots et on le relançait dans le jeu de mots, on se relançait soi-même dans le jeu de mots, on riait. Il n'aimait pas les grandes idées sur le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas, non. Mais c'était cela, ce bonheur de la parole. J'ai senti très vite qu'il avait été une très vive intuition des personnes. Et je crois que ce qui a été pour moi très important, c'est le regard très... Je sentais un regard chaleureux sur moi. Et qu'il attendait quelque chose de moi. Et au fond, il y a peu d'amis qui me signifient qu'ils attendaient quelque chose de moi. Et d'une certaine façon, c'est une bien plus vraie amitié que celle de beaucoup d'autres.
On pourrait croire qu'il y a beaucoup de lettres de Susan Lipinska. Non, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, il y a une lettre qui est peut-être la plus... Bon, les autres sont pratiquement que des mots, sont très utilitaires. Je vais à Paris tel jour, est-ce qu'on peut se voir ? Celle-ci est un peu plus personnelle, pourrait-on dire. C'est une lettre qui date du 29 octobre 1976.
Moulin d'Andé. 29 octobre 1976. Puisque la page est tournée, c'est peut-être l'occasion d'en ouvrir une autre, plus simple, plus franche, affectueuse peut-être. Je déteste ces relations qui ont été les nôtres ces dernières années, ces rencontres furtives, ces entrées par une porte et ces sorties par une autre. J'ai envie d'autre chose. mais toi peut-être pas. Et ce dîner vaguement prévu, jamais réalisé entre nous, et Julien et Charlotte que tu ne connais pas. Les ormes sont morts, c'est un peu un autre moulin. Si tu veux venir samedi avec Catherine, vous pourriez loger au Cerf, à côté du théâtre, ce serait un premier pas. Les trains sont bientôt le dimanche matin. Je sais bien sûr que tu peux trouver une voiture, mais je serais contente vraiment. Peut-être Christine et Jean-Pierre viendraient-ils et vous amèneraient-ils ? Vois, viens, je t'embrasse.
Bon, 1976, enfin, la relation est terminée depuis... Depuis 5-6 ans, elle a été douloureuse, elle a fait l'objet d'une longue séparation à répétition, mais apparemment, les relations ne sont toujours pas apaisées entre les deux. Bon, ça appartient désormais à l'histoire.
C'est quoi, pour vous, le lieu de l'amour ?
Je ne vois pas.
Belle-Île.
Ou alors si, peut-être, le lieu où me recevait ma première amie parisienne, avec qui je n'ai pas eu d'aventure, mais dont j'étais follement amoureux. Quand je suis arrivé à Paris, quand j'avais 17 ans, 18 ans, c'était un appartement dans le 16e arrondissement, très, très charmant. Et où j'ai ressenti effectivement les émotions amoureuses les plus fortes.
L'amour.
Plouganou.
Istanbul.
La rue du docteur Potin.
C'était Varsovie. Ensuite la France.
Alors c'est la maison où je suis en ce moment.
Chez moi. La maison.
Un lieu qui est organisé et construit pour que l'amour soit possible.
Mon lieu d'amour.
Paris.
Ce serait un bar à Paris. Là où j'ai rencontré mon conjoint.
J'ai rencontré mon mari, James, autour de Blévy.
Ah, le lieu de l'amour, c'est une classe. Une classe préparatoire du lycée Jean Jaurès à Reims.
My place of love.
Yes. Je ne peux absolument pas répondre à ça, c'est horrible.
La montagne.
Well, Ellis Island.
Merci à Christine Lipinska, Sylvia Richardson, Marcel Benabou, Catherine Clément, Claude Burgelin, Jean-Luc Joly, Stanislas Lipinski, Isée Bernato. Merci aussi à Abby Bachaouche. Lecture, Benjamin Habitant, Olga Grimbert. Prise de son, Patrick Muller, Christophe Papon. Mixage, Nadège Antonini. Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marivonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Sur les lieux de Georges Perec. Le Moulin d'Andée, le lieu de l'amour. Un documentaire de Claire Zalk, réalisé par Diffy Mariani. Les pages web sont sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.